Bienvenue dans Sur le grill des Cotables, le podcast qui décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Ce podcast est aussi l'occasion de dresser des portraits de l'écosystème écotable. Ces militants de l'assiette, je les rencontre depuis le lancement des Cotables début 2019. Ils se réunissent autour d'objectifs communs, l'écologie et le bien manger. Aujourd'hui, à travers ce nouveau format, je souhaite faire connaître ces restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs, militants. Je souhaite vous faire partager ses engagements, ses parcours. J'espère que ces portraits vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour et à nous soutenir en notant ce podcast 5 sur 5 et en le partageant largement. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Militants de l'Assiette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Delmas, cofondatrice et dirigeante des Marmites Volantes. J'ai rencontré Ariane courant 2018. C'est une des toutes premières personnes à qui j'ai présenté le label Écotable, auquel elle a immédiatement adhéré. Il faut dire que les Marmites Volantes est une entreprise écologiquement et socialement engagée depuis longtemps. Les Marmites se sont tout d'abord fait connaître par leur concept innovant, celui de délicieuses marmites consignées que l'on peut se faire livrer chez soi à vélo. Aujourd'hui, les Marmites Volantes, ce sont 3 restaurants en région parisienne et une offre pour les cantines scolaires. Leur but ? Assurer le bien manger pour toutes les bouches. Récemment, Ariane est également devenue coprésidente de la communauté Écotable, le pan associatif du projet Écotable. Elle mène ainsi avec Hervé Marot et tant d'autres, Hervé que vous avez d'ailleurs pu entendre dans ce podcast, des initiatives diverses autour de l'alimentation durable. Bonjour Ariane.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Alors, je m'appelle Ariane, je suis parisienne, maman de 2 enfants et je partage ma vie avec un chef cuisinier qui défend aussi, comme moi, l'alimentation durable et engagée.
Ok, donc la cuisine, c'est une histoire de famille.
Oui, on verra si un de nos 2 enfants finit cuisiner, mais en tout cas, oui, on aime cuisiner, on aime manger et on aime partager parce que je pense que dans le fait de manger, il y a aussi la notion de partage qui est très importante.
Ouais. Alors, toi, tu as rejoint le projet des Marmites Volantes, pas à sa création immédiate, mais un peu plus tard, si, dès sa création. Je te vois hocher la tête. Dis-nous tout.
En fait, on était 4 au démarrage, 4 cofondateurs.
D'accord.
Et chacun portait des projets autour de l'alimentation, assez diversifiés. Un restaurant d'insertion pour l'une d'entre nous. Moi, j'avais un projet d'école de cuisine. Et puis, les garçons expérimentaient déjà de la livraison à vélo en entreprise, mais dans un format un peu différent. Et on s'est rencontrés d'abord 2, puis 4, il y a presque 10 ans. On s'est rencontrés en avril 2011. Donc c'est aussi une année spéciale pour nous. Et très vite, on s'est retrouvés autour de valeurs de l'entreprise qu'on voulait créer, des valeurs communes autour de l'engagement environnemental, social. Aucun d'entre nous ne venait et ne vient du monde de la restauration.
Okay.
Et du coup, on avait envie d'inventer un restaurant différent où on travaille pas le soir et le week-end, où on travaille sans micro-ondes, sans congélateur et où on fait des livraisons à vélo. Alors, quand on parlait de ça, des gens qui venaient de le métier nous regardaient avec des yeux complètement écarquillés. Mais qui sont ces zombies qui veulent monter une activité de restauration sans respecter les règles habituelles? Et puis, c'est comme ça que sont nées les Marmites. Dès le départ, il y avait une double activité, restauration sur place et emportée, et puis livraison de marmites à l'heure du déjeuner, majoritairement à destination d'entreprises, de structures de tout type d'ailleurs. On travaillait pas le vendredi, pas le soir et que la semaine, quoi, pas le week-end.
Ok, alors on va revenir sur tout ça. Avant, je voudrais revenir sur ton parcours. Tu dis tous les 4, donc vous êtes 4 cofondateurs. Tu peux me citer les 3 autres cofondateurs?
Bien sûr, il y a Madalena Guerra, Lélio Lemoine et Bertrand Chim.
D'accord. Donc tous les quatre, pas du milieu de la restauration. Qu'est-ce que t'as fait toi avant? Qu'est-ce que t'as fait déjà comme études?
Alors moi j'ai fait une école de commerce dès l'école, en fait, c'est ce moment-là où dans mes mémoires et dans la mémoire de mon entourage personnel, il y a eu un truc autour de la bouffe, qui est un mot que j'aime pas trop, mais il y a pas trop d'équivalent en français. C'est pas que l'alimentation, c'est aussi cuisiner, etc. Et donc en sortant de l'école, j'ai travaillé chez Fauchon.
Okay.
Qui était un peu le qui était, je ne sais pas si on peut toujours dire qu'il est toujours, un des temples de l'alimentation de luxe, Place de la Madeleine.
Mais tu voulais faire ça dès l'école de commerce.
Ouais, je voulais faire ça. En tout cas, c'est un domaine qui m'intéressait. C'est vrai que, ben voilà, il y a eu cette opportunité-là. Je voulais faire du marketing. Il n'y avait pas de place au marketing. Donc, ils m'ont proposé un poste de business analyst aux côtés du président pour contribuer, enfin, à ma modeste échelle de débutante, à la réflexion stratégique sur comment grandir. Et voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée chez Fauchon, et où j'ai passé quelques mois dans les tableaux Excel à faire des analyses financières, et puis après il y avait un poste au marketing, donc je suis passée faire du marketing, et j'ai passé 4 ans à manger. C'était quand même une de mes principales activités.
C'est pas mal.
On passait beaucoup de temps à sélectionner des produits d'épicerie, mais aussi des produits frais. Donc, on travaillait beaucoup avec les chefs, le chef pâtissier, le chef cuisinier. On dégustait plein de produits d'épicerie pour renouveler des gammes. Donc, franchement, on pouvait avoir des dégustations dans une journée. On pouvait goûter les bûches de Noël, les galettes des rois et l'après-midi, les nouveaux styles de pâté qu'on mettait en boîte, quoi. Donc, quand je dis manger, franchement, je mens pas. J'ai beaucoup mangé. Et puis bon, bien sûr, il y avait plein de réflexions autour de qu'est-ce que c'est que de l'épicerie de luxe, c'est quoi l'avenir de l'épicerie de luxe. Parce que déjà à l'époque, il y avait des prémices de manger, se nourrir, ça va changer. Quelque chose va se passer. Et du coup, c'est étonnant parce que Auguste Fauchon a été un des premiers à annoncer des fruits exotiques dans son magasin en annonçant les vols Air France qui arrivaient des pays anciennement colonies françaises. Il y avait écrit vol en provenance de tel pays avec les fruits qu'il y avait dedans.
Donc ah ouais.
Il y avait encore des photos de ça. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit ça, c'est complètement anti-environnemental de faire venir des fruits en avion, mais j'y pense là en t'en parlant. C'est vrai que peut-être que la boucle est bouclée de Auguste Fauchon aux marmites volantes.
Mais alors, quel a été ton sentiment pendant ces 4 ans? Est-ce que c'est une expérience qui t'a apporté? Quelle est la première image que tu as du coup de cette industrie de l'alimentation?
Une image très humaine. En fait, ce qu'on mange, c'est cuisiné par des gens. C'est un traiteur de luxe, une boutique de luxe, hein, donc les prix de vente étaient très élevés, mais les plus belles amitiés que j'ai créées avec des gens que je vois toujours, c'est avec les chefs, cuisiniers, pâtissiers. Et c'est vrai que j'ai découvert le monde de transformer des produits bruts en des produits cuisinés, qu'ils soient salés ou sucrés d'ailleurs, le fait de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que je pense que ça a été le début de mon intérêt pour ce qu'on mange, en fait. Au-delà du positionnement luxe, de toutes les questions aussi stratégiques de il y a un seul magasin Fauchon, en faut-il d'autres sur la place de Paris, etc., qui étaient des problématiques business de l'entreprise. Mais je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de ce qu'on mange et des gens qui contribuent à ça. Donc c'est vraiment ça que j'en garde de ma première expérience.
Et est-ce que tu avais déjà une sensibilité écologique affirmée?
Non, très honnêtement, ça fait pas forcément partie de mon bagage culturel ou familial. Même si je me souviens très bien quand j'étais enfant, ma mère allait au marché le week-end. Ma mère travaillait, mais elle faisait les courses le week-end. Et quand elle ramenait les premiers petits pois ou les premiers haricots verts, il y avait un peu la fête à la maison, quoi. Elle aimait ça et elle nous a communiqué ça. C'est vraiment les souvenirs de cette saisonnalité-là. Après, je pense que à la fin de mes années Fauchon, quand j'ai changé, je suis partie dans le voyage d'affaires, donc rien du tout en termes de rapport, mais j'avais aussi besoin de changer d'air. En parallèle, j'ai commencé à m'engager à titre bénévole dans des activités autour de l'alimentation, de la nourriture, de faire la cuisine pour des grands groupes, etc. Et j'ai monté une association avec d'autres personnes qui s'appelle les Tabliers Volants, qui est une association de cuisine.
Déjà
nomade et itinérante, voilà, et où tout le monde est bénévole, donc il y avait vraiment pas d'ambition de modèle économique lié à cette activité-là.
Et ça a été quoi alors le déclic pour passer de Fauchon à une association?
Je pense que c'était des choses différentes, en fait. C'était deux choses en parallèle, surtout que dans le voyage d'affaires, j'ai beaucoup pris l'avion, j'ai cramé mon bilan carbone, honnêtement, en 4 ans et demi, je pense que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde en avion. Et à l'époque, c'est vrai que les sujets environnementaux, ils existaient, et c'est clair, mais ils étaient vraiment réservés à une toute petite catégorie de gens, peut-être même des scientifiques, des chercheurs. J'ai cette idée-là, ces idées-là n'étaient pas vulgarisées. Mais je pense que moi, dans mes engagements militants aussi dans le monde associatif, bah, j'y suis venue progressivement en fréquentant des gens qui étaient aussi des gens engagés pour l'environnement, mais aussi dans des luttes sociales. En fait, j'ai fréquenté à la fois des luttes environnementales, mais aussi des luttes sociales. Et en fait, l'alimentation, bah, elle peut se mettre au service de n'importe quelle lutte. Des grévistes ou bien des gens qui se mobilisent contre un grand projet inutile. On a tous besoin de manger et c'est tous un moyen de se rassembler, de se réunir. Et il y avait aussi la question de comment on se nourrit moins cher, parce que quand on est sur des très grosses activités minantes, il y a beaucoup de monde, il y a une question de budget. Donc comment on cuisine sans viande, par exemple, pour limiter le budget. Pas parce qu'on n'aime pas ça, mais simplement parce que clairement, quand on a peu d'argent, c'est plus facile de manger sans viande. Ouais. Donc, c'est une succession de rencontres, de cheminements, je pense, d'accord, personnels, qui ont fait qu'à un moment, l'engagement est devenu vraiment quelque chose de très prégnant pour moi.
Mais t'étais engagée avant socialement, c'est ce que tu dis ?
C'est venu progressivement, oui. Je pense que j'étais d'abord touchée par des luttes sociales. En fait, en étant parisienne, en habitant en ville, les luttes environnementales, elles sont parfois plus éloignées de son quotidien. Par contre, les luttes sociales contre le mal logement, par exemple, c'est des sujets qui nous viennent. Enfin, on peut pas habiter à Paris et nier ces problèmes-là. Donc, je pense que mes premiers sujets d'engagement, ils étaient plutôt sur des luttes qui étaient sous mes yeux, en fait. Et puis qu'au fil du temps, je pense que quand on commence à s'engager, ben, on s'ouvre aussi à d'autres sujets et des sujets qui sont plus loin de son quotidien, mais sur lesquels on peut aussi avoir son avis et ses envies de s'engager, quoi.
Oui, et puis comme tu dis, au début, probablement qu'à cette époque, en effet, les sujets étaient moins vulgarisés, en tout cas moins traités par les médias, et que petit à petit, ces questions sont devenues plus prégnantes. Ouais. Ok, donc est-ce que tu te rappelles de ce déclic quand même qui te fait créer cette association sur l'alimentation ?
Je pense que le déclic, en fait, je faisais déjà la cuisine pour des groupes, et puis on a des copains qui nous ont dit, vous savez, Lydie, toi et Marie-Geneviève, vous faites la même chose, vous pourriez peut-être monter une association à plusieurs, vous seriez plus fortes. Et on s'est rencontrés avec Lydie et Marie-Geneviève et accompagnés par des copains à nous qui nous ont aidés à formaliser des statuts assez ouverts sur leur format, parce que bon, clairement nous, ça nous intéressait pas trop d'avoir un bureau, en fait on voulait surtout faire la cuisine et fédérer plus de gens autour de nous, et c'est comme ça que l'association est née. Donc je pense qu'il y avait aussi les gens qui nous ont encouragés à faire ça, il y avait aussi l'idée qu'en se structurant on pouvait pousser plus loin nos réflexions, fédérer plus de gens autour de nous et pas se contenter d'être actifs à notre niveau à nous, qui était déjà bien, et effectivement ils ont eu raison puisque ça a donné de la visibilité à la structure et que progressivement plein de gens se sont intéressés à ce qu'on faisait, et au fur et à mesure on a été de plus en plus nombreux à vouloir faire la cuisine de manière pour différentes luttes à différents endroits.
Qu'est-ce que ça a donné, cette association ?
Ben aujourd'hui, il y a des centaines d'adhérents. Okay. On est toujours plutôt lié à Paris, mais on fait plein de choses et c'est beaucoup autour de l'engagement, à la fois social et solidaire. Il y a toujours que des bénévoles et ça a toujours été une volonté de rester dans le bénévolat sans structurer davantage l'organisation. Et c'est une association qui vit toujours, qui est toujours active et qui fait des choses, qui est plutôt dans le nord-est parisien. Mais qui fait plein de choses en ce moment, en plus depuis le début de cette crise, beaucoup d'engagements solidaires sur l'aide alimentaire, rendre accessible l'alimentation aux plus précaires. Donc voilà, ils cuisinent et ils peuvent faire cuisiner ceux qui ont envie de cuisiner avec eux. C'est très ouvert comme mode de fonctionnement.
En tout cas, toi, c'est ton premier projet entrepreneurial en tant que tel.
Exactement. Sauf que, en parallèle de ça, ben, je travaillais dans l'aérien, puis après, j'ai travaillé pour un groupe de distribution, et que du coup, quand même, plus ça allait, et plus ça me rendait un peu schizophrène d'avoir ces activités-là le soir et le week-end, et en semaine, d'avoir une activité qui était de moins en moins en ligne avec ce que j'avais envie de faire.
Alors attends, parce que là, tu nous teases, là. C'est quoi ce groupe de distribution ? Comment tu passes de l'aérien à ce groupe de distribution ?
En fait, au bout de 4 ans d'aérien, j'en avais... Ouais, ça va, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, et puis quelqu'un m'a envoyé une annonce, on cherchait une direction marketing et achat avec un profil épicerie fine, et passionné d'alimentaire. Bon, du coup, j'ai répondu à l'annonce, j'ai un entretien en 48 heures, j'avais une offre sur la table en une semaine.
Mais chez qui ?
Bah, dans un groupe de distribution belge qui cherchait à monter une structure française.
Ok.
Et on a démarré à trois. Il y avait un directeur général, moi et une secrétaire. Et il fallait tout monter, copier, coller le modèle qu'il y avait en Belgique, qui était un modèle de, on va dire, petit supermarché, mais positionné assez haut de gamme. Qui était avec des larges horaires d'ouverture. Bon. C'était un peu ce qui est devenu aujourd'hui, par exemple, des gens, des Franprix, qui sont ouverts tard le soir, qui sont ouverts le dimanche, qui ont installé une rôtisserie, etc., etc. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, voilà, pendant, on a développé ce concept en France. On a fait 3 magasins. Et puis, et moi, j'étais en charge du positionnement de la marque, mais aussi de l'ensemble de la gamme de produits. Et donc, ben, notre idée, c'est de dire, on va amener des produits de petits producteurs au pied de des Parisiens, quoi. Puisque finalement, des marques de grande consommation, des yaourts et du jambon industriel, il y en a déjà à tous les coins de rue. On n'a rien à apporter de plus sur le marché, quoi.
Ok, donc il y avait un engagement dans ces...
En tout cas, moi, j'ai essayé d'amener cet engagement-là, mais qui était aussi lié à un positionnement marketing, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de magasin de producteurs à Paris. Tout le monde vendait des yaourt Danone, du jambon Herta, et il n'y avait pas les céréales d'Île-de-France, il n'y avait pas... Enfin, franchement, tout ça, ça n'existait pas. Ou ça existait, mais ça n'arrivait pas jusqu'au cœur de Paris. Je pense que les choses ne se sont pas nées d'un coup d'un seul comme ça. Mais et c'est vrai que, en fait, dans ces magasins, on a référencé ce genre de produits et il y avait une vraie demande, quoi. Les gens avaient aussi commencé déjà à se dire, tiens, il est possible de manger différemment, de s'alimenter différemment. Et c'est vrai que, l'expérience n'a pas été beaucoup plus loin parce que l'entreprise belge a eu d'autres soucis par ailleurs et du coup, ça s'est pas poursuivi. Mais c'est à ce moment-là où moi, en fait, je me suis dit, ok, je suis prête. J'ai envie de monter un projet avec d'autres gens. J'ai toujours eu envie de le faire à plusieurs, mais j'ai besoin d'être alignée entre mon envie de changer le monde et ce que je fais au quotidien. Ça va. J'ai atteint un point où ça suffisait ce que j'avais fait.
Ouais. Et du coup, ta sensibilité pour l'alimentation durable, elle est plurielle. Elle est à la fois venue de ton expérience en association, mais aussi de ce projet belge.
Oui. Franchement, je pense que, en fait, de l'analyse du marché français aussi, okay. Du marché parisien en tout cas, qui était de dire, ok, on est un nouvel acteur, on arrive sur le marché, qu'est-ce qu'on a à dire aux consommateurs? Et si c'est pour dire la même chose que ceux qui existent déjà, bah, on n'a pas grande chance de faire notre trou. Et comment on peut se démarquer? Comment on peut offrir autre chose? Et c'est vrai que les Belges nous avaient laissé pas mal de marge de manœuvre sur ça. C'était déjà un petit peu ce qu'ils essayaient de faire en Belgique, mais le marché belge était vraiment très différent du marché parisien. Du coup, il y avait des choses qui étaient comparables et d'autres qui l'étaient moins. Mais je pense c'était peut-être... en tout cas, pour moi, j'ai cherché les produits de producteurs et j'en ai trouvé. Et je me suis dit, ok, on tient quelque chose, quoi. On peut proposer du yaourt pas industriel, encore une fois. Je me souviens, on avait déjà eu un débat sur le jambon sans nitrite.
Ah ouais.
Même un débat là qui sort actuellement. Et à l'époque, un des freins, c'était de dire, bah ouais, mais le jambon, il sera pas rose. Comment on fait pour vendre du jambon pas rose, sachant que le magasin était en libre service, donc. C'est pas comme si on pouvait expliquer à chaque client qui passait devant le rayon que la couleur était liée au fait que et on avait décidé de référencer les deux et en disant pour voir ce qui se passe, comment ça avance. Et le jambon sans nitrite avait beaucoup de mal à se vendre. La couleur était un vrai problème de d'éducation du consommateur, quoi, qui comprenait pas pourquoi le jambon avait la couleur.
Puis à l'époque, on savait pas les méfaits du dénitrite de manière générale.
Non, mais les producteurs, eux, ceux qui avaient commencé à en faire, le savaient. Enfin, en tout cas, disaient, il faut qu'on trouve une alternative, quoi.
Déjà.
Ouais. C'est vrai que sûrement la construction de la vision que j'ai de l'alimentation, elle s'est construite par toutes les étapes par lesquelles je suis passée, aussi bien de l'alimentation de luxe où j'ai commencé à aujourd'hui aussi rendre accessible le mieux manger au plus grand nombre.
C'est intéressant parce que aussi t'as un aspect business qu'on retrouve pas toujours dans ces projets associatifs ou en tout cas de manière générale des projets entrepreneuriaux de l'économie sociale et solidaire. Toi, t'as fait une école de commerce, t'as fait derrière des projets qui étaient des projets de business. T'as pu analyser le marché. Qu'est-ce que t'en as tiré pour tes expériences futures? Du coup, est-ce que c'est ça qui t'a guidé derrière vers la création de ton projet?
Je pense que c'est plusieurs choses. En fait, c'est aussi que c'est plusieurs éléments. C'est de voir plein de copains autour de moi qui montaient des projets associatifs et qui galéraient. Parce qu'ils dépendaient de subventions, parce qu'ils arrivaient à sortir des salaires minuscules et que vivre avec des salaires minuscules, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc il y a ce premier aspect-là. Et puis il y a un autre aspect. Je me souviens d'une discussion avec une copine. Je crois que c'était juste au début, même avant les marmites, qui m'avait dit « Non mais attends, c'est pas parce qu'on est engagé qu'on doit faire du vélo parce qu'on n'a pas d'argent, vivre en tongs toute l'année parce qu'on n'a pas d'argent et manger pas de viande parce qu'on n'a pas d'argent, quoi. Il y a un moment, être engagé, ça doit pouvoir aussi être on vit dans un monde réel de l'économie, quoi. » Et donc, c'est tout ça ensemble qui fait que j'étais animée et je pense que c'est aussi comme ça qu'on... C'est ça qu'on a partagé avec les cofondateurs des Marmites Volantes, c'est que en créant un acteur économique, une entreprise... On avait vocation à créer de l'emploi pérenne, à nous occuper, nous, dans un premier temps, mais et de sortir des salaires qui alors pas au démarrage, mais qui, à terme, devaient nous permettre d'avoir une vie agréable, quoi, et pas une vie de sacrifice sur tous les sujets. Quoi. Mmh. Et je pense que l'idée d'associer les deux, la vision business et la vision engagée, elle s'est construite à partir de là. À partir de ça, à partir de ces discussions, de ces rencontres, et que social, solidaire, rentable pour être durable. Parce qu'aujourd'hui, si l'entreprise fête ses 10 ans, c'est bien parce qu'on a trouvé un modèle qui est rentable. Pas très rentable. On gagne très peu d'argent en rentabilité, mais on en gagne assez pour s'autofinancer et pour continuer à exister 10 ans après. Mmh. Et je pense que... Il y a un vrai enjeu dans l'économie sociale et solidaire, au-delà des sujets alimentaires, à avoir une diversité de structures. Le modèle économique que nous, on a construit, qui est une entreprise, c'est un des modèles. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres modèles qui peuvent exister. Je dis pas que c'est le meilleur. Je dis simplement que le nôtre, il permet de défendre la rentabilité économique et qui, aujourd'hui, est indispensable pour pouvoir tenir dans la durée et être indépendant de subventions. Oui. Laissons les subventions aux associations qui, effectivement, elles, en ont besoin pour survivre, quoi. Nous, franchement, jusqu'à la crise du Covid, on a touché en tout 30 000 euros de subventions publiques, quoi.
C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que vraiment pour les gens, encore économie sociale et solidaire égale minuscule salaire, égale on n'a pas d'argent, égale on compte sur l'argent public. Donc toi, en tout cas, tu sors de cette expérience belge et là, tu crées, tu rencontres du coup Lelio,
c'est à ce moment-là et Madana, exactement. Okay. Et c'est à ce moment-là aussi où du coup, je suis mûre, je négocie une rupture conventionnelle avec mon patron à qui je dis à l'époque déjà que je veux monter un projet entrepreneurial. Et du coup...
Tu les rencontres où comment écoute, les planètes s'alignent pour c'est... que...
Madalena, on s'est rencontrés un an avant, une copine à nous qui nous dit « bah, vous devriez vous voir, vous avez sûrement des choses à vous dire ». Effectivement, on a passé un super moment ensemble toutes les deux, mais on n'était pas mûrs du tout pour monter une entreprise. Je pense que on s'est beaucoup appréciés, mais on n'avait pas assez de bagages à deux. Et un an plus tard, si je me souviens bien, c'est la mère de Lelio qui connaissait la mère de Madalena, et qui se parlent et qui disent « Tu sais, Lelio et Bertrand, ils cherchent des gens avec qui s'associer pour cuisiner. » Bon, et Madalena et moi, on avait très envie de cuisiner. Moi, j'avais envie de passer par cette phase-là aussi de produire, en fait, de transformer ces fameux produits bruts en produits cuisinés avec amour. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, vraiment, de manière... on peut pas dire que c'est le hasard, mais de circonstances, quoi. Et honnêtement, ça a vraiment démarré. On s'est retrouvés tous les quatre à l'apéro. Et à 2h du matin, on s'est dit bon, là faut qu'on arrête de parler parce que sinon on va pas dormir. On se retrouve la semaine prochaine, on recommence mercredi prochain. Et en fait, je pense qu'il y a eu un coup de foudre à 4 si je puis dire sur nos engagements mutuels et aussi notre complémentarité. On a tous des parcours assez différents. Madalena, elle vient des sciences sociales et elle avait été, elle occupait des fonctions de salarié au SAMU social, enfin dans des structures d'action sociale. Lelio, il sortait de l'école de commerce, frais moulu, et Bertrand, il est ingénieur acousticien.
Ah oui.
Et donc rien à voir. Eux deux, ça faisait un an qu'ils expérimentaient la livraison à vélo dans des très grandes marmites avec du service, enfin une version démarrage, on va dire, de ce que sont devenues les marmites volantes. Et ils voulaient passer à l'étape d'après, en fait, ils voulaient agrandir l'idée, quoi. Et en fait, on avait chacun à la fois des profils et des envies un peu différentes. Moi, j'étais très attachée au format horizontal de notre entreprise, aussi parce que dans mes engagements associatifs, j'avais beaucoup fonctionné avec de l'autogestion. Et elle avait, j'étais totalement convaincue de son pouvoir et de, on avait réussi à nourrir des centaines de gens en étant autogéré, sans qu'il y ait de chef, même dans une cuisine. Et puis en même temps, je liais à mon expérience business parce que j'avais vécu en entreprise pendant 10 ans moi quand même avant.
Tes entreprises, c'était pas
du tout horizontal. Non. Mais bon, je trouvais qu'il y avait quand même des choses qu'on pouvait sûrement adapter, quoi. Et puis, Lélio et Bertrand, ils avaient quand même cette grosse expérience de client. Et puis Madalena, cet aspect aussi engagement social. Comment on peut tendre la main, aider, créer les bonnes conditions pour que ceux qui ont besoin d'aide puissent grandir, quoi, puissent aller mieux. Et il y a vraiment cette complémentarité hyper forte entre nous, je pense. Et sur l'idée que je pense qu'on avait aussi en commun de pas être très ambitieux. Honnêtement, hein, on a voulu ouvrir un restaurant. Je pense qu'on n'avait pas du tout l'idée que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui. On n'avait pas un business plan à 5 ans d'entrepreneur. On n'allait pas lever des fonds au bout d'un an. Enfin, honnêtement, je pense que ça nous paraissait pas du tout possible. En tout cas, c'est pas ça qu'on a pensé.
Vous avez quand même fait un business plan parce que toi et Lélio, en tout cas, vous êtes.
Oui, il y avait un business plan parce qu'il a fallu aller emprunter auprès d'une banque, donc il fallait un business plan. Mais en tout cas, dans ce business plan, il n'y avait pas écrit qu'on allait faire un deuxième restaurant, puis un troisième, et qu'on allait faire des cantines scolaires, et que c'était pas ça. Je pense qu'on avait une forme peut-être de modestie aussi, et qui, je pense, est très précieuse dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où ça empêche pas d'avoir l'envie de réussir, mais par petits pas, quoi. Notre impact, il était d'abord rue Armand Carrel dans le 19e, à l'emplacement de notre premier restaurant, quoi. Changer le monde là, à cet endroit-là, autour de nous. Et puis après, on verrait. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous alliait bien tous les quatre.
Ok. Donc, vous vous rencontrez, vous faites ce business plan, vous allez emprunter de l'argent. Comment ça se passe ensuite, le lancement des marmites volantes? Comment vous passez de Lélio et Bertrand qui livrent avec leur propre vélo à quelque chose qui fonctionne?
Ça, c'est un peu la magie de l'entrepreneuriat, je pense. En tout cas, on trouve cet emplacement, on signe notre bail dans le 19e, là, à côté de Jaurès, en
décembre. Les banques vous prêtent facilement?
En fait, sur le financement, on a dit, tout le monde met la même somme de nous quatre. Donc, chacun avait mis 15 000 euros dans l'entreprise. On était quatre co-gérants, majoritaires à tous les quatre, mais égalitaires. C'est très important pour nous.
Ah, vous étiez vraiment horizontal, ouais, à fond.
Exactement.
Et attends, parce que ça m'intéresse, ça, parce que moi, je suis pas une convaincue de l'horizontalité à 100%. T'avais pas trouvé certaines limites dans cette horizontalité dans ton association?
Peut-être la limite, c'est comment tu convaincs des gens qui ne le sont pas encore. C'est-à-dire qui sont très sceptiques et qui n'ont même pas envie d'essayer. Mais en fait, la démonstration, surtout quand on est des choses très concrètes comme manger, nourrir, les gens, ils étaient sceptiques. Puis, en fait, une fois qu'ils voyaient qu'on arrivait à nourrir 700 personnes pendant 3 jours d'affilée, ils disaient, ah ouais, en fait, il n'y a pas de chef et les gens mangent et c'est bon et en fait, ça marche.
C'est incroyable, ça. Il faut que tu fasses des formations dans les écoles de cuisine parce que c'est tellement hiérarchisé dans les restaurants.
Oui, c'est vrai. Après, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Et je dis pas que cette horizontalité, elle est absolue partout. Et je pense que moi, j'ai envie de dénoncer le fait que c'est trop vertical dans certaines cuisines. Et que la notion de brigade, c'est vraiment, je pense, trop loin. Après, il y a une vraie, dans l'esprit cuisine, en tout cas de ce que moi j'en perçois, et je ne suis pas cuisinière, donc c'est une perception extérieure, c'est que la formation, l'accompagnement, un chef qui sait et qui apprend aux autres comment faire, il y a forcément un peu de verticalité parce qu'il y a un sachant et un apprenant. Mais c'est aussi une question de posture du chef. D'ailleurs, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il fallait le permis de former en restauration pour pouvoir accueillir des stagiaires ou des alternants. Et dedans, il y a une grosse partie pédagogie sur comment on transmet son savoir. Donc, Je pense qu'il y a vraiment une question de posture du chef. Et puis après, il y a une question aussi de personnalité et de comment on crie sur son élève quand l'élève n'y arrive pas.
Bien
parce que bon, le sujet des violences en cuisine, qu'il soit verbal ou pire, c'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui et qui est historique dans les cuisines. Mais je pense, et l'horizontalité, elle n'empêche pas la violence verbale. Hein. Il ne faut pas tout mélanger. L'horizontalité, c'est aussi de dire que chacun peut donner son avis. Tout le monde peut goûter la soupe et il n'y a pas que le chef qui sait si elle est bonne ou pas. D'autres gens peuvent donner leur avis. Donc, l'horizontalité, c'est pas absolu. C'est qu'il y a des moments La pyramide est moins pointue qu'à d'autres. Alors que dans la gérance de l'entreprise, pour le coup, on était tous les quatre égalitaires, quoi.
Donc comment ça se passe, cette gérance horizontale?
On prend les décisions tous ensemble, au consensus. Donc, ça veut dire que...
Donc, à l'unanimité.
Exactement. Donc, ça veut dire que chaque décision est beaucoup observée, retournée dans tous les sens. Au-dessus, en dessous, on la regarde bien et on la débat beaucoup, s'il y a besoin. Mais après, quand on la prend et qu'on la met en application, du coup, tout le monde est convaincu que c'est la bonne décision. Et donc, honnêtement, alors, je pense que ce serait intéressant d'en reparler peut-être avec les associés. Moi, j'ai pas le souvenir de blocage. Je me souviens pas qu'il y a des moments où on a été bloqué, arrêté sur on n'y arrive pas, on n'arrive pas à prendre de décision. À chaque fois, on a trouvé, on a remis l'intérêt de l'entreprise au milieu du, j'allais dire au milieu du champ, quoi, au milieu de la cuisine, en disant, non, c'est quoi? Pourquoi on est là? C'est quoi qu'on a envie de faire? Alors, revenons à ces questions de fond pour savoir comment on répond à cette question-là. Mais en fait, ça peut être des difficultés, mais après, il y a une énergie telle quand on prend les décisions ensemble qui, et que je pense que, c'est cette énergie qui a fait que nous, pas issus de la restauration, on a monté un restaurant qu'en quelques mois, on avait 40 couverts tous les jours et que on a réussi à s'organiser, à produire, à mettre en route l'activité, quoi. Et qui effectivement s'est lancé et puis a rencontré du succès, quoi, assez vite.
Oui, après, vous étiez quatre. Moi, ce qui m'interroge dans l'horizontalité, c'est quand tu deviens vraiment nombreux et que tu fais participer toute ton entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, les marmites volantes, de manière générale, fonctionnent de façon horizontale?
Pas assez, et c'est un très bon chantier. Alors moi, je passais beaucoup de temps en 2020 à chercher des subventions et de quoi sauver l'entreprise. J'espère qu'en 2021, je pourrais consacrer un peu plus de temps au sujet de la gouvernance partagée. C'est un sujet qui m'intéresse. Pas plusieurs aspects. D'abord parce que quand on est une entreprise engagée, on peut être engagé sur ce qu'on fait, sur le fond, sur nos produits, sur avec nos salariés, avec nos parties prenantes, mais on peut aussi être engagé dans la manière de s'organiser. Et donc moi j'ai envie d'avancer dans cette direction-là. Et puis l'autre aspect, c'est on a une spécificité dans la restauration, c'est que dans notre entreprise, il y a des salariés qui maîtrisent pas la langue française. Pas à l'oral, pas à l'écrit. Et du coup, comment on fédère ces gens-là et comment on les fait participer à la vie de l'entreprise autrement que dans leur poste, c'est un vrai défi. Je sais qu'il y a des entreprises, en particulier dans le BTP, qui ont réussi à impliquer les salariés. Alors, impliquer les salariés, ça veut pas dire que tout est décidé tout en horizontalité. Ce serait peut-être d'ailleurs intéressant de discuter avec des gens qui sont dans des formats coopératives, qui effectivement, eux, sont dans une horizontalité totale. Nous, non, il n'y a pas d'horizontalité totale. En revanche, je pense que ça a au moins autant de poids, c'est une posture. C'est de ma part à moi en tant que dirigeante de beaucoup écouter, de beaucoup questionner, d'être très réceptive aux idées qui viennent du terrain. Et puis que moi, j'ai pas la science infuse, je suis pas parfaite, j'ai pas toutes les bonnes idées. Enfin, ça me paraît complètement fou d'avoir un truc aussi égocentré, si je puis dire.
Aujourd'hui, vous êtes combien de dirigeants au Marmite?
Alors, moi, je suis à la direction générale. J'ai 4 personnes au comité de direction qui sont pas associées, pas encore, mais on est en train d'ouvrir le capital au grand public et aux salariés. On y reviendra.
On va en parler.
Et après, en tout, on est 24 salariés.
Ok. Donc là, on a un peu sauté des étapes. On est à l'ouverture du restaurant à Jaurès. Comment ça se passe? Donc tu dis tout de suite, on fait 40 couverts. Ça veut dire tout de suite, vous avez structuré l'activité pour justement avoir un sourcing hyper propre. Comment ça s'est passé?
On s'est réparti les tâches. Moi, j'étais vraiment sur la partie sourcing parce que c'était mon bagage et puis que c'était aussi ce qui m'intéressait beaucoup. Et on a trouvé une maraîchère qui a accepté de venir. Ça n'a pas été si facile. Voilà, je le dis en une phrase, mais c'est quelqu'un qui venait déjà livrer des AMAP à Paris. Pas très loin de 19e. Et je me souviens plus comment on l'a rencontré, très honnêtement, mais je me souviens de nos premiers échanges. Est-ce que je peux me mettre en double file facilement devant votre restaurant parce que moi je fais pas de créneau avec mon camion? Oui, il y a pas de problème. Mais je viendrai qu'une fois par semaine, je viens pas plus que pour les AMAP. Non, c'est pas grave. Quand j'ai rien, je pourrais pas vous inventer des légumes, hein. C'est pas grave. Enfin, bon, clairement, elle était extrêmement réticente. Elle a fini par accepter, essayer. Et puis, bah, ça fait 8 ans qu'on travaille avec elle. Elle vient de Beauvais tous les mardis, Marie, et son biogardin, courageuse maraîchère en agriculture biologique dans une région où le bio et le maraîchage sont quand même pas monnaie courante. Elle est cernée par des grands céréaliers, pas du tout bio. Donc, big up à Marie pour ce qu'elle fait.
Vous pouvez retrouver son portrait, son visage sur le portrait des marmites volantes sur le site d'Écotable.
Exactement. Et voilà. Et c'est vrai que les légumes, ça structurait quand même beaucoup les choses. Après, on a cherché à travailler avec des fournisseurs français sur les céréales, les légumineuses, de l'épicerie. Au début, c'était pas mal de contraintes sur des gros formats, des gros volumes. Mais bon, l'activité étant croissante, on arrivait quand même à s'en sortir. Mais je me souviens de discussions sur est-ce qu'on vend des bouteilles d'eau, par exemple, à nos clients. Non, pas de bouteille d'eau. Et l'eau pétillante. Ah ouais, non, mais bon, bah, tant pis, les gens, ils boiront pas d'eau pétillante. C'était des choix qui, d'un point de vue marketing, faut vraiment rigoler. Mais il y avait l'idée aussi de tester, je pense, ce que c'était que la restauration engagée. Est-ce qu'on peut aller au bout de ça?
C'est génial.
Évidemment, chez nous, il n'y a pas de soda industriel. Vous l'aurez compris, il n'y en a jamais eu. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait du jus de fruits, du sirop. Bon, ok, mais il n'y a pas des trucs un peu plus rigolos à vendre pour le déjeuner. Je pense qu'on testait un peu les limites parce que on était parmi les premiers. Il y avait quelques autres acteurs un peu uluberlus comme nous qui refusaient en gros de mettre du coca à leur carte, quoi. Mais on a trouvé notre clientèle. En tout cas, bon, beaucoup de gens nous demandaient du coca. On leur disait, nous on n'en a pas. Il restait quand même pour manger.
Oui, c'est toujours ce que je dis aux restaurateurs qui veulent pas enlever le coca. Personne ne partira parce qu'il n'y a pas de coca.
En fait, je pense que, en tout cas, nous on n'est pas une brasserie. On n'est pas un limonadier, quoi. Donc les gens venaient quand même manger. Et puis, dès le début, il y avait un plat végétarien, un plat de viande. Ça, c'était aussi... Et l'idée, c'était que le végétarien, ça permettait d'avoir un prix moins cher. Donc, on a commencé l'assiette végétarienne, c'est-à-dire un plat roboratif sans viande était servi à 9 euros.
Oui, parce que ce que tu dis pas depuis tout à l'heure, c'est qu'en plus, vous aviez des prix super engagés. Ça, c'était un postulat de départ.
Manger bien n'est pas un truc de riche.
Ouais.
Je pense que ça, c'est sorti à notre première rencontre entre tous les quatre.
C'est génial parce que c'est limite innovant à l'époque.
Oui, en fait, c'était fou. À l'époque, on ne nous disait pas « vous êtes innovant », on nous disait « vous êtes fou ». Depuis, on nous dit « ah, vous avez été pionnier, ah, vous étiez innovant ». Oui, enfin, même si c'est pas forcément comme ça qu'on se voyait, hein, je pense qu'on était vraiment sur repousser un peu des limites, expérimenter, faire des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est une salariée qui l'a dit il y a quelques semaines, quand on réfléchissait au plan à 5 ans, et elle me disait, ce qu'on va faire dans 5 ans, en fait, ça existe pas, hein, donc, puisque c'est ça la marque de fabrique des marmites volantes. Je lui dis oui, c'est vrai. Après, je pense que clairement aujourd'hui, la restauration engagée, c'est un chemin qui est ouvert, où il y a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent, des acteurs qui le mettent en valeur, comme Écotable. Bon, il y a beaucoup de chemins beaucoup d'eau à couler, hein, depuis cette époque-là. Mais je pense que c'est vrai qu'au début, on nous prenait pas au sérieux, hein. Soyons clairs. On a, le prêt qu'on a obtenu, c'était un prêt auprès de la NEF, qui est une banque très engagée auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et eux, ils nous ont posé pas de questions sur nos engagements. Ils nous ont pas trouvé fous. Ils nous ont dit, économiquement, votre business plan, il tient la route, on y va. C'est vrai que c'est aussi avec des acteurs comme ça qui étaient déjà là il y a plus de 10 ans et qui ont soutenu des gens comme nous qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, hein.
Et alors, qui ont été les premières personnes qui sont venues manger? Qui a été votre clientèle? Parce que vous êtes dans le 19e arrondissement, donc à Jaurès. À l'époque, alors moi, je viens du 19e arrondissement. À l'époque, on n'est pas dans ce 19e qui devient bobo aujourd'hui. Qui vient manger?
On a des salariés, en fait, de structures, d'entreprises qui sont dans le quartier. Il y a un gros pôle emploi. On a eu tout de suite des salariés de pôle emploi. Il y avait une grosse caisse d'allocation familiale aussi. Et puis quand même, il y avait le siège d'entreprise. Il y avait des gens de chez Vivarte, par exemple, qui étaient là. Il y avait donc, en fait, c'était aussi un quartier. Ou pour déjeuner, il y avait quand même un choix très très limité. Il y avait du fast, bad, good et de la brasserie quelconque au coin de la rue. Franchement, il y avait absolument rien d'autre. Or, des gens qui avaient quand même envie de mieux manger, il y en avait déjà en fait. C'était pas aussi popularisé qu'aujourd'hui, mais et puis pour un prix aussi acceptable. Je pense qu'on a, les premiers clients, ils sont venus peut-être pour le prix. On a eu pas mal de clients qui sont venus pour le végétarien parce que franchement, il y a 10 ans. être végétarien et vouloir aller au restaurant, c'était quand même ambitieux. Enfin, ou en tout cas, sinon vous finissiez avec une assiette omelette frites, quoi, une assiette jaune. Et nous, on faisait pas de frites et pas d'omelette, donc de toute façon, il fallait faire autre chose. Finalement, je pense que c'était un peu tout le monde. C'est-à-dire que je pense que c'était une nouvelle offre de restauration dans le quartier. Les gens se sont dit, tiens, on va essayer. Et après, bon, c'est moi qui cuisinais avec Madalena, donc je pense que c'était bon ce qu'on cuisinait. Je pense que c'est pour ça que les gens revenaient. On y mettait de l'amour, on faisait des choses simples, des choses, nous, moi, j'ai pas de diplôme de cuisine, mais on était bien organisés. Madalena, elle avait un diplôme de cuisine qu'elle avait passé en reconversion. Et on mettait de l'amour, on faisait des choses simples pour un prix accessible, et c'est comme ça que ça, je pense que les clients y ont trouvé leur compte.
Est-ce que vous mettiez en avant votre engagement? Je te pose la question parce que dans les quartiers populaires, nous on a eu plusieurs fois, ce qui nous est remonté, c'est que les restaurateurs ne veulent pas mettre en avant leur engagement de peur de faire fuir cette clientèle populaire.
Alors non, on mettait pas du tout en avant nos engagements. On a mis des années à les mettre en avant. D'ailleurs, même aujourd'hui. Et je me souviens que la première fois que t'es venu au restaurant des Marmites Volantes à Jaurès, tu m'as dit mais Vous dites rien sur ce que vous faites. Je dis bah on dit à l'oral, mais on n'écrit rien. Non, il y a rien écrit. On écrit surtout pas qu'on fait du bio et des choses comme ça. Alors depuis, on a mis quelques flèches avec des distances kilométriques de nos producteurs, mais je pense que c'est un des plus grands pas marketing qu'on ait fait dans nos restaurants sur la communication, sur ce qu'on faisait. Honnêtement, on a travaillé énormément les premières années et on rentrait du chiffre d'affaires, communiquer sur ce qu'on faisait. Alors franchement, c'était pas du tout notre rayon.
Parce que toi, t'étais à la fois en cuisine, mais tu gérais aussi l'aspect business, quoi.
Oui, enfin, Lélio, il gérait aussi beaucoup l'aspect business. On était tous, en fait, on s'était quand même réparti les tâches. Mais moi, j'étais quand même beaucoup cuisine et approvisionnement. Lélio, il était quand même beaucoup plus sur la partie gestion, le suivi des tableaux, etc. Donc, on s'était réparti. Et Bertrand, il a vraiment des doigts magiques, quoi. Il ramassait n'importe quoi, n'importe où, il le transformait en élément de décoration pour le resto. On a meublé tout notre restaurant pour zéro de budget, parce que dans notre budget, il y a écrit zéro. On nous a offert un lot de chaises. On a récupéré des tables. Bertrand a construit d'autres tables. Enfin, c'était vraiment un peu bric-broc, mais bon, quelque part, c'était cohérent, quoi. 9 euros le plat, les gens s'attendaient pas à être dans un endroit dessiné par un designer célèbre et qui avait la cote aux quatre coins de la planète, quoi. C'était pas du tout...
Oui, en même temps, c'est hyper convivial, l'atmosphère des Marmites Volantes.
Ouais, alors bon, depuis, on a remis un petit coup de peinture quand même, mais oui, c'est vrai, il y a une forme de simplicité aussi, et de pas de matraquage de messages. Je pense que sur l'affichage des messages... Il y a quelqu'un en interne qui dit souvent on va pas obliger les gens et on va pas les rendre coupables. Parce que parfois, les messages, soit c'est ceux qui sont curieux et ils posent des questions et à eux, on peut partager avec eux. Mais il y a aussi des gens, ils viennent juste pour manger. En fait, ils ont pas envie qu'on leur fasse la leçon, qu'on leur fasse la morale sur c'est bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Vous savez, la déforestation et vous savez... on est quand même dans un endroit où les gens viennent premièrement pour manger. Nous ne sommes pas un lieu d'information. Après, ça peut être un deuxième rôle qu'on assume complètement.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est... Et parfois, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, vous êtes tellement engagé, vous racontez tellement de choses sur votre engagement, mais on peut manger quand même chez vous. Oui, on peut manger. Et je pense que c'est aussi le talent de nos équipes de cuisine aujourd'hui. C'est que ce soit encore bon et que c'est pour ça que les gens viennent. Ils viennent pas que parce qu'on est engagé.
Et alors toi, quand est-ce que tu quittes du coup ce rôle de cuisinière?
Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'en ai marre. J'en ai marre d'éplucher les carottes, j'en ai marre d'organiser la production, j'ai envie de faire autre chose.
Donc on est en 2015?
Ouais. Et on s'était toujours dit, depuis le début, on avait dit on s'engage tous pour 2 ans opérationnels. Après, s'il y en a qui veulent changer, on trouvera l'organisation et on s'adaptera. Et on a été plusieurs à en avoir marre un peu en même temps. Et c'était aussi le moment où on pouvait commencer à salarier des gens. Donc, on a embauché et créé nos premiers postes en cuisine. Et c'est aussi là où on a cassé la règle de tout le monde est payé pareil. Parce qu'en fait, ça marchait pas de cette manière-là aussi lisse. Du coup...
Parce que vous aviez cette règle à l'origine.
À l'origine. Mais en fait, entre-temps, enfin, on était quand même 2 à toucher le chômage. Il y en a 2 qui étaient rémunérés. Puis à l'époque, il y avait des statuts qui, depuis, je crois, ont disparu. J'espère les fameux TNS, là, travailleurs non salariés, qui sont des statuts complètement pourris en termes d'accompagnement et de mutuelle, de prévoyance et tout. Enfin, franchement, c'est catastrophique comme statut. Donc c'est pire, c'est la précarité absolue de l'entrepreneur, quoi. Donc, à ce moment-là, on est 2, puis progressivement 1/3 qui sort de l'opérationnel. On crée nos premiers postes recrutés et Lélio reste à la direction générale de l'entreprise.
D'accord.
Seul aux commandes. Nous, on par chacun sur d'autres routes temporaires.
Ah, tu quittes carrément le projet?
Ouais.
Ah ouais, c'est fou ça.
On était toujours actionnaires, mais...
Ouais. Tu vends pas tes parts, il est pas question de vendre ses parts.
Il est pas question de vendre ses parts. Il est juste question de... En fait, intellectuellement, j'ai envie de faire autre chose.
Okay.
Et du coup, c'est là où je retrouve des gens que je connais depuis plusieurs années auparavant, qui sont les fondateurs de Terroir d'Avenir. Et je rentre chez Terroir d'Avenir à la direction marketing, achat et commercial, pardon.
Ah ouais.
Et qui était un peu la suite logique en fait, et où je me disais c'est fou parce que on peut être salarié et être totalement aligné sur ses valeurs, ses envies et sur l'aspect business aussi quoi. Parce que
c'est toi qui va taper à la porte de Terroir.
C'est toujours compliqué avec Samuel Alexandre. Non, je crois qu'on a bu une bière ensemble et ils m'ont dit bon alors quand est-ce que tu viens travailler avec nous? Et je leur ai dit bah chiche quand vous me payez mieux que ce que je gagne aux marmites volantes. Et puis je crois que 3 semaines après ils me disent bon on va boire une autre bière et puis on a commencé à discuter comme ça. Bon c'est parce que en fait on se connaît depuis très longtemps et on s'est rencontrés. Moi j'étais chez Fauchon, je me souviens, eux ils avaient déjà leur projet et
ah ouais
on avait discuté.
Ça existe
de
ça. Depuis quand Terroir?
Ben, ça doit faire plus de 10 ans que ça existe maintenant. Je crois qu'ils ont fêté leurs 10 ans il y a 2-3 ans.
D'accord.
Mais bon, ils avaient déjà eu l'idée en tête avant la création de l'entreprise.
Bien sûr.
Et on s'est rencontrés au sein du mouvement Slow Food.
Okay.
Qui à l'époque était un lieu d'agitation autour de l'alimentation, de la gastronomie. Et qui est aujourd'hui, qui existe toujours aujourd'hui. Mais qui est peut-être un peu moins dynamique pour l'instant. Mais on s'est rencontrés à cette occasion-là et on a suivi nos parcours mutuels, eux entrepreneurs tout de suite et puis moi j'ai été salarié pendant un moment. Mais et donc voilà, et eux me disent ben écoute, toi t'as de la seniorité, on est dans une phase d'entreprise où on a aussi besoin qu'il y ait des gens plus seniors qui rejoignent l'équipe et qui nous aident à structurer et à faire progresser encore notre entreprise. Est-ce que ça t'intéresse de travailler pour nous? Et du coup je suis rentrée comme salariée. Et j'avoue, j'étais au début un peu inquiète. Je me suis dit, alors attends, j'étais entrepreneur hyper autonome dans un truc hyper horizontal. Comment ça va se passer? En fait, ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai toujours été salariée en disant ce que je pensais. Ça fait toujours. C'est pas le fait d'être entrepreneur.
Si
ça
vous
m'a
rencontrez
pas,
un jour Ariane, de toute façon, vous ne pouvez pas penser l'inverse.
J'ai toujours eu la parole libre, si j'ose dire. Donc ça n'a pas changé. Mais après, j'avais et j'ai toujours énormément de respect pour ce que Samuel et Alexandre ont créé et la droiture avec laquelle ils ont tenu leurs engagements au service des producteurs. Et je me disais tiens, j'ai trouvé des gens encore plus puristes que moi et c'est vrai au commercial on s'en rendait compte comme aux achats, mais quand il y avait plus certains produits parce que les producteurs n'en avaient plus, et ben on disait aux clients il y a plus. Et je me souviens d'un restaurateur me répliquant mais t'as qu'à aller à Rungis me chercher des courges. Et du coup la posture c'était non, en fait si nos producteurs ils ont plus de courges parce que c'est la fin de l'hiver, il y a plus de courges à vendre, c'est tout. Si toi tu veux des courges, tu vas en acheter ailleurs mais pas moi. Et en fait je trouvais ça hyper fort quoi de dire ça à un client quelque part, c'était un peu anti-business.
Ouais.
Sauf que c'était super pro engagement. Et donc je pense que eux, mon passage avec eux, j'ai passé 4 ans avec eux. Ils ont fini de me convaincre que en fait on pouvait avoir des engagements très forts, avoir une vision business qui y soit associée et ne pas se laisser porter dans des directions où on n'avait pas envie d'aller, à condition d'avoir bien défini où on en est. Mais et j'avoue, j'ai encore énormément d'admiration pour la manière dont ils ont su mener leur barque et dont ils ont réussi à servir à la fois les chefs mais aussi le grand public, puisque ils ont ouvert des boutiques pour le grand public. Donc et cet alignement personnel que j'ai vécu dans ces phases-là, franchement, je le souhaite à tout le monde d'avoir des phases de vie comme ça. C'est pas éternel, c'est pas pour tout le temps, mais d'avoir des moments de vie où professionnellement on arrive à aligner et tout ça, c'est extrêmement positif.
Mais tu finis donc quand même au bout de ces 3-4 ans à revenir aux marmites.
Exactement, mais c'était une succession de circonstances qui ont fait que Lélio, 4 ans plus tard, il était fatigué, il avait porté l'entreprise. Il y a un deuxième restaurant qui avait ouvert entre temps.
Donc c'est là moi où je te rencontre.
Oui,
parce que la première fois que je te rencontre avec Lélio à Jaurès.
Et on était dans la phase de transition puisque c'était au printemps 2018 et lui était fatigué, il avait vraiment vécu des années difficiles parce que c'est difficile d'être entrepreneur, en particulier dans des années où l'entreprise avait eu des difficultés
liées à
Bah, à l'ouverture d'un deuxième restaurant qui démarre pas aussi bien que prévu, et puis sur un modèle économique qui était encore en cours de construction. Et puis je pense que Lélio aussi, il était un jeune entrepreneur, il avait pas connu d'entreprise avant, donc il avait peut-être pas tous les outils non plus pour faire face à des situations. C'était vraiment une posture difficile. Et seul, c'est très dur.
Bien sûr.
Franchement, mais bon.
Donc c'est lui qui vient vous dire j'en ai marre.
Ouais, un peu. Après, il y avait quand même le truc de il en avait marre, mais sauf que on voulait pas lâcher le truc, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et moi, c'était aussi un moment où voilà, j'avais fait une phase avec Terroir et j'avais contribué pour ma part et du coup j'ai dit à Lélio, ok. On se tape dans la main et je prends le relais. Et c'était aussi une belle histoire, en fait, de vie de l'entreprise. Et donc, Lélio, progressivement, s'est retiré. Moi, j'ai pris mon poste de direction générale et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Exactement.
Ok, incroyable. Justement, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé avec Lélio. Est-ce qu'ils se sont fâchés? Pourquoi est-il parti? Non, en fait.
On s'est pas fâchés. La transition a pas toujours été facile parce que on est assez différents tous les deux dans nos personnalités, etc. Donc, on avait des manières de faire qui étaient différentes, mais qui sont aussi liées à notre parcours parce que moi, j'ai quasiment 10 ans de plus que Lélio et que j'ai travaillé ailleurs et donc on était riches de choses différentes. Mais non, on s'est pas fâchés au point que c'est fait craquer l'entreprise puisque ça a poursuivi. Et qu'aujourd'hui on est encore dans une nouvelle dynamique, et que Lélio est toujours associé de l'entreprise, comme Madalena, comme Bertrand. Mais
tu es la seule dirigeante
opérationnelle. Je suis la seule dirigeante, exactement.
Ok, ça fait combien de temps maintenant?
Ça va faire 3 ans au printemps. Dans un mois ou deux, là, ça fera 3 ans. Et
entre-temps, vous avez ouvert un nouvel établissement à Pigalle.
Voilà, exactement. Entre-temps, on a créé la première. Enfin, moi, j'ai créé la première fonction support parce que à l'époque, les restaurants, ils géraient eux-mêmes les commandes de marmites que passaient les entreprises. Et en fait, ça devenait vraiment trop pour chacun des restaurants. Donc, j'ai créé une fonction commerciale. Où sont centralisées toutes les commandes des entreprises qui veulent se faire livrer.
Parce que ça, tu nous en as pas parlé, mais en effet, vous avez créé un restaurant, mais il y avait quand même cette partie vente à emporter qui était très importante. Et tout de suite, vous avez livré à des entreprises?
Oui, les marmites. En fait, c'est que dans le modèle économique qu'on a construit, si on voulait pas être ouvert le soir et le week-end, il fallait générer assez de chiffre d'affaires au déjeuner en semaine. Du coup, un restaurant tout seul avec 40 places assises, c'est pas rentable. Donc, et puis il y avait cette expérience que Lélio et Bertrand avaient menée et qui était assez concluante. Il y avait des clients qui aimaient ça, quoi, qui trouvaient que c'était une bonne idée et tout. Donc, dès le départ, il y avait ces deux lignes de chiffre d'affaires là et qu'on grandit ensemble. Et on savait aussi que le restaurant, à un moment, il serait à saturation. Enfin, les gens n'allaient pas pouvoir les asseoir les uns sur les autres. Alors que les marmites, bon, avant d'arriver aux capacités de saturation, bon, on pouvait grossir l'équipe cuisine, embaucher un livreur dédié. C'était un peu la croissance de l'entreprise. On savait dès le départ qu'elle serait portée par la livraison en entreprise. Et à Montreuil, le deuxième restaurant qu'on a ouvert, même principe. Restauration sur place à emporter et livraison de marmites autour. Et donc voilà. Donc en 2018, je crée cette première fonction support, une centralisation de toutes les commandes commerciales, aussi plus simple parce que sinon les clients, il y a des clients du 19e qui appelaient Montreuil, il y a ceux de Montreuil qui appelaient le 19e. Enfin bon, c'était quand même pas mal le bazar. On avait besoin de passer un petit cran en termes d'organisation. Et donc ça c'est le premier poste et c'est Juliette qui l'occupe, elle est toujours là. Juliette, elle fait ça plus plein d'autres choses. Et ça a été ma première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que à l'époque on livrait déjà une école du quartier depuis un des restaurants.
C'était elle qui est venue, t'étais venue taper à votre
porte. Elle était venue à l'époque où Lélio était en place et était en poste et en nous disant vos petites marmites là, vous pourriez aussi nous livrer pour les enfants. Oui, a priori, y a rien qui nous y empêche. C'était quand même pas si simple en termes d'organisation et de contractualisation, etc. Mais bon, on a trouvé des solutions. Quand moi j'arrive en 2018, en fait, il y avait 4 écoles qui étaient en liste d'attente et qui voulaient toutes être livrées du même genre de repas, quoi. Des écoles privées, exactement. C'est fou tous ces gens qui ont envie de manger marmite. Peut-être qu'on devrait quand même faire quelque chose. Et donc le deuxième poste que je crée, c'est un chef de projet restauration scolaire, qui est Julie, qui en fait est rentrée aux marmites après une reconversion en cuisine, qui a travaillé à Montreuil, qui a travaillé à Jaurès en poste de chef de cuisine, et puis qui était partie en congé parental quelque temps. Et puis quand elle revient, je lui dis, écoute, voilà, il y a un sujet sur les cantines, est-ce que t'as envie de t'y intéresser? Et je dis, écoute, on est en janvier, d'ici la fin de l'année, pour la rentrée, ce serait bien qu'on ait fait un peu un état des lieux, quoi. Toutes ces écoles, est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et tout, quoi. Et bah, au mois d'avril, elle me dit, bah alors moi, j'ai 4 écoles qui sont prêtes à signer pour la rentrée de septembre et j'ai même trouvé un laboratoire pour produire en hors des restaurants. Je dis, bah écoute, tu vas plus vite que la feuille de route. C'est pas ça qu'on attendait. C'est encore plus intense, quoi. Et du coup, on signe les contrats, on signe un bail avec un laboratoire. Et en septembre 2019, on ouvre notre premier laboratoire de production pour la destination des cantines avec 4 contrats.
Génial. Et aujourd'hui?
On a 12 contrats. On sert 850 repas jour.
Waouh, bravo.
Et alors en liaison chaude et en liaison froide. Et on se prépare sur les marchés publics pour l'année prochaine.
Oui, parce que j'allais dire, ta difficulté aujourd'hui, c'est que tu es obligé de t'adresser aux écoles privées.
Oui, enfin c'est une difficulté. En même temps, on est encore une liste d'attente. Il y a toujours plus d'écoles qui ont envie de travailler avec nous. On essaye de grandir à un rythme raisonnable pour pas exploser en plein vol.
Bien
sûr. Oui, c'est les écoles privées, c'est aussi parce que c'est celles qui ont le moins de solutions, ou en tout cas qui ont des solutions proposées par les grands groupes classiques de la restauration collective et qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles attentes, qui sont de l'engagement et du vrai engagement.
On en parlait la semaine dernière dans notre épisode sur les cantines scolaires avec un constat effroyable, notamment à Paris, de la qualité de ce que mangent les écoliers.
Ben oui, après bon c'est compliqué, c'est pas un sujet simple et ce qu'on fait est un métier compliqué hein. Il s'agit pas de dire il suffit, il y a qu'à Faucon, en fait non, c'est comme beaucoup de sujets, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas nous, le message qu'on a envie de passer, c'est d'abord il y a pas de fatalité, c'est possible de faire différemment. Déjà premièrement. Non, la restauration scolaire, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de plein de critères différents. C'est une histoire de choix aussi de priorités politiques. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que il y a énormément de nouvelles équipes municipales qui sont passées aux dernières élections, qui ont dans leur top 5 priorités le sujet des cantines scolaires. Que ce soit des sujets qui soient déjà internalisés en régie publique, ou bien des sujets qui soient en concession de services publics. Dans les deux cas, il y a des vraies volontés de faire bouger les choses, d'amener du mieux manger dans les cantines scolaires, en ayant évidemment un sujet sur le prix. Mais sauf que manger bon, beaucoup bio, très local, avec de l'amour, bah oui, c'est plus cher que de manger Indus. Ça, c'est il y a un moment, faut quand même dire les choses telles qu'elles le sont. Après, ben voilà, c'est des choix et des arbitrages. Mais par exemple, mettre moins de viande dans les repas de cantine, ça permet de mettre plus de bio. Et il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il y a plein d'expérimentations. Et même au-delà d'expérimentations, il y a des villes hors de Paris qui ont mis en place des cantines tip-top, avec moins de viande, avec moins de gaspillage alimentaire, avec moins de déchets plastiques. Enfin bon, des leviers sur mieux la cantine, il y en a beaucoup. C'est comme une entreprise de restauration engagée comme nous. On fait pas tout parfait. On a fait plein de choses progressivement et on chemine encore. Et je pense que les cantines scolaires, je pense que les lois vont aider aux transformations, mais c'est pas au 1er janvier d'une nouvelle année que d'un coup tout va être parfait, quoi. Ça, c'est vain de se dire ça. Par contre, il faut enclencher des évolutions. Et bon, clairement, elles sont en train d'être enclenchées par un certain nombre d'acteurs, hein. C'est vrai.
Et alors, est-ce que c'est justement ce business model un peu dual qui vous a permis aussi de tenir la route en 2020?
Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et c'était vraiment début 2020. J'avais des discussions sur nos. On était en train d'écrire notre plan de développement justement pour se projeter un peu plus loin que l'année. Hein. Et beaucoup de gens à qui dont je sollicitais l'avis me disaient non mais Ariane, tu te disperses. Hein. Franchement, tu fais trop de trucs différents. Faut te recentrer, faut que tu choisisses, mais tu pourras pas tout faire. Bon, bah ça c'était le 15 janvier 2020, donc il y a un an. Les mêmes, et il y en a beaucoup qui est très honnête, avec qui j'ai eu des échanges au cours du printemps de cette année, m'ont dit « En fait, tu sais, ton multi-activité, je pense que c'était plutôt une force. J'avoue que ce que j'ai dit, t'as bien fait de pas m'écouter. » En tout cas, bon, c'est pas juste écouter ou pas écouter, mais c'est aussi cheminer et c'est être flexible. Donc oui, clairement, alors, premier confinement, tout fermé, donc plus d'école, plus de resto. Bon, là, c'était vraiment tout à l'arrêt. Mais une volonté en interne d'engagement, franchement, j'étais sidérée, quoi. Parce que faut se souvenir qu'au premier confinement, on a tous pris un coup sur la tête, hein. Franchement, 4 jours avant, tout le monde se disait, non, mais attends, confiner Paris, mais c'est pas possible, en fait. Confiner le pays non plus. Bon. Et là, bam. Et ben, bon. Au-delà de la sidération, il y a eu des énergies. Il y en a eu au sein des Marines Volantes, mais il y en a eu aussi au sein de la communauté écotable, hein. De gens qui ont dit, en fait, on nourrit ce monde et on va pas s'arrêter de nourrir
ce
monde.
Moi, j'ai été très marquée justement par cette réunion. Donc, en effet, on est confiné, on fait une réunion au sein de la communauté écotable, donc qui est le point associatif d'écotable. Et je me rappelle de ton discours et de l'énergie que tu avais en disant, mais en fait, moi, je vais continuer, je vais cuisiner. Il y a des gens là qui sont dans la rue, qui ont besoin qu'on cuisine pour eux. Il y a des soignants, etc. C'était assez fou.
Ben, je pense qu'il y a, je pense que c'est le pouvoir de l'alimentation, de la bouffe, quoi. C'est à la fois le pouvoir au sens, en fait, on peut pas rester très longtemps sans manger. C'est on risque d'en mourir, hein, c'est clair. Et c'est vrai que c'est la version un peu trash de pas manger. Et puis il y a tout ce qu'amène l'alimentation, du partage, du soin de l'autre, de se questionner sur de la simplicité de s'alimenter. Des lentilles et du riz, ça peut faire un repas. Il y a pas besoin que ce soit très compliqué pour pouvoir se nourrir en termes de recettes, hein, j'entends. Donc je pense que le côté nourricier de notre métier et de l'entreprise qu'est les Marmites Volantes, c'est quelque chose qui est dans ma chair, quoi. Enfin, franchement, et que ce soit dans des actions bénévoles ou que ce soit dans des actions dans un cadre économique différent, j'ai toujours ça au fond de moi, quoi. C'est ça qui m'anime. Et dans l'entreprise, les gens ont aussi ça. Enfin, moi, au sein des Marmites Volantes, au bout de 3 semaines, les gens ont dit, bon, alors, on réouvre la cuisine, on fait des repas pour l'aide alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on s'organise? Moi, je veux bien être bénévole. Je suis OK pour sortir de chez moi, etc. Bon. Et donc, oui, moi, j'ai cette énergie-là. Mais en fait, dans l'entreprise, il y a aussi ces énergies-là. Alors, bon, certains disent que c'est aussi moi qui les tire dans cette direction. C'est vrai, mais moi j'ai pas été leur tirer de leur lit. Hein. Enfin, je veux dire, les gens ils sont volontaires pour venir, hein, et ils candidatent chez nous. Bon, donc et là, donc c'est vrai que cette année, se mobiliser sur l'alimentation pour les soignants avec la communauté écotable, mais aussi pour les précaires. Quand on a mobilisé notre labo quand les écoles étaient fermées, on a travaillé des invendus avec des équipes pour faire des repas pour les précaires. C'était aussi une manière de se sentir utile à quelque chose d'autre que d'aller travailler pour toucher son salaire, quoi.
Est-ce que c'est ça qui t'a motivée à devenir coprésidente de la communauté écotable après le confinement? Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, pendant le confinement, la communauté écotable fait l'opération Restaurons les soignants durablement et propose à tous les restaurants écotables et adhérents à l'association de cuisiner pour les soignants les plus précaires.
Oui, je pense que j'ai aussi senti dans cette communauté beaucoup d'énergie positive. Pour changer le monde. J'aime beaucoup cette expression. Ça veut pas dire faire la révolution, ça veut pas dire changer tout le monde tout de suite, mais faire bouger les lignes, démontrer que c'est possible de faire différemment, d'être beaucoup plus de femmes que d'hommes aux commandes, parce que ça, c'est quand même une caractéristique de notre communauté. Et c'est aussi, au Marmites Volantes, c'est comme ça, on a peu d'hommes à la direction.
Je suis écotable aussi.
Je me suis dit, j'ai l'impression qu'on a un outil. Cette structure-là, qui est encore très en construction, dans laquelle on peut y mettre encore plein de choses, je me suis dit, on a un outil pour faire bouger les choses, justement en fédérant à la fois des acteurs économiques, des bénévoles, des associations, et avec une ambition de fédérer, pas de dire, nous, à la communauté écotable, on sait ce que c'est, on sait tout, nous, on sait ce que c'est que de bien manger, pas du tout. C'est pas du tout notre posture, et c'était pas la posture avant même que moi j'arrive. La posture, c'était plutôt on met en lumière des gens qui savent faire, on fédère, on accompagne ceux qui ont envie de bien faire, et voilà les formations que vous, Écotable, avez lancées pendant ce confinement, pour inciter les gens à faire mieux, pour leur apprendre à comment faire. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve hyper puissant, quoi, qui est de faire tous ensemble en collectif, et pas deux, trois qui savent, et puis les autres qui suivent.
Et ce collectif, tu le retrouves aujourd'hui avec ta levée de fonds. Donc les Marmites Volantes lèvent des fonds en ce moment et je vous invite tous et toutes à participer si vous le souhaitez. Et tu as choisi un financement participatif. Explique-nous.
Alors, un financement participatif, les informations pour notre levée de fonds sont disponibles sur un site internet, sur une plateforme de financement participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir actionnaire de notre capital. Tout le monde peut acheter une action des Marmites Volantes, le ticket d'entrée est de 100 euros, donc c'est relativement accessible. Le participatif, vous l'aurez compris un peu dans l'histoire et dans la manière dont s'est construit l'entreprise, on l'a construit à 4 cofondateurs. Et puis, ce que sont les Marmites aujourd'hui, c'est une histoire qui est coécrite. coécrite avec ses salariés qui ont proposé des idées et qui ont fait grandir l'entreprise, mais aussi avec ses fournisseurs, avec ses parties prenantes. À l'origine, on n'avait pas prévu de faire une offre traiteur. On n'avait que nos petites marmites livrées au déjeuner. Puis on a des clients qui nous disaient « Oui, mais on aimerait bien un cocktail de fin de journée. On vous prend les marmites si vous nous faites un cocktail de fin de colloque. Bon. » Bon, ok, mais bon, oui, bon, ouais, bon, ok, d'accord. bon, donc c'est et puis bon, voilà. Aujourd'hui, c'est une petite activité pour nous, mais c'est vrai que et puis des bouteilles d'eau pétillante, bah en fait, on nous en a demandé, donc on a fini par en acheter, en essayant de trouver des bouteilles qui étaient consignées, etc. Donc, ce qu'est l'entreprise, c'est le résultat d'une co-construction. Pour écrire la suite de l'histoire, bah je trouvais ça logique. D'ouvrir le capital au grand public pour que tous ceux qui le souhaitent puissent se saisir d'une action et contribuer, participer à la vie de l'entreprise, être informés de comment on prend nos décisions, de comment on avance, de nos choix stratégiques, pour faire changer le monde et pour avancer sur ce sujet de l'alimentation durable et de la restauration engagée.
Alors vous voulez lever 500 000 euros, il me semble. À quoi vont servir cet argent? À quoi va servir cet argent?
Alors, cet argent, il va principalement servir à recruter des nouvelles fonctions support. Aujourd'hui, on va dire pré-Covid, les restaurants étaient rentables, ils avaient atteint leur point de rentabilité. Et pour grandir, on a besoin de structurer de nouvelles fonctions dans l'entreprise. Une direction financière qu'on n'a pas aujourd'hui, une direction marketing communication par exemple, qu'on n'a pas non plus aujourd'hui. On adresse ces sujets-là, mais de manière un petit peu diminuée avec nos ressources en interne, avec l'idée que on va grandir en ouvrant des nouveaux restaurants qui feront aussi livraison de marmites et en ouvrant encore la restauration scolaire, puisque l'ambition, c'est qu'à 5 ans, c'est de multiplier par 6 le nombre de repas qu'on pourrait livrer quotidiennement, à la fois auprès d'écoles privées, mais aussi d'établissements publics.
Quelle est la date limite pour participer si les gens ont envie de participer?
Bah, ce serait très très bien de le faire avant le 15 mars, disons la mi-mars. Je pense que ce serait bien. C'est aussi un bon timing pour nous. Grâce aux aides qu'on a pu toucher aussi, l'entreprise est en bonne santé aujourd'hui, donc on a de quoi passer le printemps même sans cette levée de fonds. Et je pense que vu le contexte, on est dans la restauration, c'est pour ça que je précise que cette levée de fonds, elle a pas vocation à nous sauver. On est déjà sauvés et sortis de la crise. On a beaucoup augmenté nos chiffres sur le scolaire. Nos restaurants aujourd'hui en vente à emporter, ils font des très beaux chiffres rapportés au secteur. Donc on est entreprise plutôt en bonne santé malgré l'impact de ce virus et on cherche à porter notre vision à 5 ans sur comment rendre accessible le mieux manger au plus grand nombre.
Sur cette levée de fonds, j'ai une dernière question. Est-ce que c'était possible pour toi de faire une levée classique?
C'est une bonne question. Je honnêtement, j'ai discuté avec des fonds à impact, alors qui est déjà pas une levée classique puisque c'est des fonds d'investissement à impact, donc ils sont déjà pas tout à fait classiques. Mais bon, entre les réticences par rapport à la crise du Covid, c'était un vrai sujet, et puis on a une taille qui est un peu petite pour certains fonds, et ça je peux tout à fait le comprendre. Aujourd'hui, on n'a pas encore une taille critique assez grande pour que certains fonds mettent des tickets. Donc mais l'histoire du participatif dès le début, c'était une option. Ouais. Et je pense que c'est très cohérent par rapport à notre histoire, c'est ce que je disais. Et je pense que c'est aussi parce que dans l'idée de faire de la restauration autrement, je pense qu'on peut mobiliser l'épargne des particuliers autrement. Vrai que ouvrir son capital au grand public de cette manière-là, c'est une manière de rendre accessible l'économie au grand public, et que pour ceux qui ont un peu d'argent sur un compte en banque, dont ils savent pas bien ce que fait la banque avec leur argent, ou du moins ils ont des doutes, et les doutes s'avèrent pas toujours très positifs, je leur propose de mettre plutôt de l'argent dans une entreprise où nous on est transparent et en plus on est engagé, donc leur argent il servira à créer des emplois et à se développer encore. Et je pense que c'est vrai que des levées de fonds classiques, quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire et qu'on défend de la rentabilité pour de la durabilité, c'est y a pas de levée de fonds classique en fait. Je pense que c'est pas que pour nous, mais je pense qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui.
Bah la comparaison c'est la nôtre. Hein. Nous on vient de finir notre levée de fonds qui a été aussi participative via une autre plateforme, mais c'était exactement similaire. Et en effet, on est aussi allé voir les fonds à impact. Et c'est compliqué quand on n'a pas une rentabilité affolante, en tout cas pour les premières années. Mes deux dernières questions, ce sera les questions que je pose d'habitude. Ma première question, c'est est-ce que tu te considères comme une militante de l'assiette ? Est-ce que le mot militante te va bien ? Moi, je peux répondre à ta place si tu veux, mais je veux ta réponse.
Oui, je suis une militante et je suis une entrepreneuse militante. Et je pense que les deux mots peuvent s'associer. Je pense que aujourd'hui, on peut être militant de l'environnement, on peut être militant pour des luttes sociales et que oui, c'est ce que je revendique aujourd'hui comme posture, c'est clair.
Super, j'aurais pu le parier. Et ma dernière question, c'est si tu avais une mesure pour l'alimentation durable aujourd'hui à promouvoir, ce serait laquelle ?
Tu veux dire une mesure d'ordre politique ?
Politique,
enfin,
bien sûr.
Ben, je pense que sur les déchets, je pense que quand un professionnel trie ses déchets, un professionnel de la restauration trie ses déchets, il devrait être incité. Ou en tout cas, soit avoir un crédit d'impôt, ou que ceux qui le font pas, alors, je suis pas sûr que, moi je suis pas forcément sur le polluer, sanctionner, etc., mais plutôt incité à faire bien. Par un système de crédit d'impôt, un crédit de taxe, etc. Je pense que ça nous demande beaucoup d'efforts. On le fait. Et je pense que ce serait bien qu'on soit incité à le faire et qu'il y en ait d'autres qui soient incités à le faire.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on valorise ses biodéchets, en tout cas à Paris, quand on n'a pas de compost, on doit le payer. Et en effet, il n'y a toujours pas d'aide fiscale pour composter et de manière générale pour diminuer ses déchets. Super. Bah écoute, merci beaucoup Ariane pour ce temps.
Merci.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.